Good Evening Business, ils font l'écho.
Notre deuxième invité, c'est le président de PwC France et Maghreb. Bonsoir Patrice Moreau.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Moreau.
Merci d'être sur ce plateau. Alors vous êtes là pour une raison bien particulière, c'est que PwC vient tout juste, il y a une heure à peine, de présenter son rapport annuel à Davos, qui est le CEO Survey. Donc c'est en gros une enquête mondiale des dirigeants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après le suroptimisme que l'on a constaté dans l'étude de 2022, place à un excès de pessimisme. Est-ce que c'est vraiment une surprise ?
Alors non, c'est pas une surprise et c'est vrai qu'on a vu l'année 2022 quand même avec tout ce qui s'est passé, tous les événements incroyables qui se sont passés,
ouais.
À commencer par cette guerre dramatique en Europe.
Ouais.
Donc c'est pas une surprise cet excès de pessimisme par rapport à ce qui pouvait être un excès d'optimisme.
En janvier 2022, voilà, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. On espérait être sorti pour de bon des ennuis.
Et on était sur un vrai rebond post-pandémie.
On était sur un vrai rebond, absolument. Et là, effectivement, mais il y a deux temps. Ce qu'enseigne en fait cette enquête, c'est intéressant parce que pour les dirigeants d'entreprise que nous sommes, on est rentré dans une réalité du en même temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on est à la fois des gestionnaires de crise permanents, et on a vu toutes les crises, la crise du Covid, la crise des talents, la crise de l'énergie, voilà, et transformateurs permanents. Parce que on est face à de tels enjeux, mais qu'il faut à la fois être dans cette dualité, sans pour autant transiger, et on pourrait revenir sur les investissements et l'humain.
Ouais. Alors qu'est-ce que ces dirigeants disent ? Parce qu'ils sont quand même 80% à estimer que la croissance, elle va baisser dans leur entreprise, en tout cas cette année.
Alors, cette année, quand vous regardez par contre plutôt à 36 mois, et qu'on leur demande notamment s'ils sont, quel est leur état d'esprit par rapport aux perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires, là, ils sont beaucoup plus confiants.
Oui.
Ils sont beaucoup plus confiants dans l'avenir. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, en fait, quand vous leur demandez s'ils prévoient de réduire leurs investissements, leurs effectifs ou autres, pas du tout. Ils sont plus de 60% à dire on ne réduira pas les investissements, on ne va pas réduire nos effectifs, on ne va pas geler les embauches, arrêter les recrutements. Donc on voit qu'il y a ces deux temps, un court terme et puis un moyen terme où on continue d'investir.
Ils sont confiants sur le moyen long terme, comme si cette inflation finalement ne devait d'avoir qu'un temps, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment vous l'expliquez, vous, finalement?
Moi, je crois que c'est plutôt le fait de traverser la crise, les crises.
Ouais.
C'est cette capacité, cette confiance qu'ont acquis les dirigeants d'entreprise pour avoir réussi à traverser cette crise Covid qui fait qu'aujourd'hui, ils ont la confiance pour pouvoir traverser les crises. Et ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'inflation, mais ça veut dire qu'ils se projettent dans un plus long terme. Il y a un enseignement, moi, je trouve, qui est intéressant, c'est que vous avez, par exemple, un dirigeant sur deux en France aujourd'hui qui estime que dans 10 ans, eh bien, s'il ne fait rien, s'il ne change pas son modèle d'affaires, sa société ne sera plus viable économiquement.
Et c'est 4 sur 10 à l'échelle mondiale.
Et c'est 4 sur 10 à l'échelle mondiale, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est vrai que les dirigeants français ont plus. Et pourquoi ? Parce que quand on leur demande quelles sont les raisons pour ça, vous avez l'évolution, en fait, des préférences des clients, vous avez les évolutions réglementaires et vous avez la transition climatique.
Ouais.
Donc, on voit bien que ces enjeux sont des enjeux qui sont pris en compte et que les dirigeants français sont probablement beaucoup plus sensibilisés aux enjeux climatiques que ne sont les autres dirigeants dans le monde.
Mais parce que sur ce plateau, on parle beaucoup du moral des entreprises et des entrepreneurs, et c'est vrai que le trou dans la raquette, en tout cas en ce moment, il se situe plutôt au niveau des PME et des ETI, puisqu'on sait que les grands groupes vont traverser les crises actuelles sans trop de problèmes. Mais vous, ce que vous dites, c'est que finalement, parce qu'au niveau de la méthode, vous avez interrogé combien d'entreprises ?
On a interrogé 4500 entreprises dans le monde, dans 105 pays, donc c'est quand même un panel très large. Après, évidemment, vous avez des secteurs et des industries qui sont beaucoup plus touchés et sur lesquels, évidemment, il y a un pessimisme.
Mais est-ce qu'il y a un sujet au niveau
fort
de la taille de l'entreprise ou pas ?
Non. On a, alors évidemment, on ne prend pas dans notre échantillon des PME, mais ETI et grands groupes sont tous couverts. Et donc, ce qui veut dire que c'est un échantillon suffisamment représentatif pour pouvoir en tirer ses enseignements.
On a l'impression qu'il y a un peu plus de pessimisme du côté de la France et de l'Allemagne, aussi bien sur sa situation personnelle que sur la situation. Le retour à la réalité de la vieille Europe. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, finalement?
Alors, effectivement, c'est vrai que quand on leur demande, ils sont plus pessimistes sur la croissance de leur propre pays que sur la croissance mondiale.
Ouais.
Mais en même temps, c'est pas complètement anormal parce que
surtout
c'est
pour l'Allemagne,
en Europe que ça se passe.
Pour l'Allemagne.
Surtout pour l'Allemagne, effectivement, qui est un pays beaucoup plus fortement industrialisé que le nôtre, et qui donc subit de plein fouet, en fait, de manière beaucoup plus forte, la crise de l'énergie.
Bien sûr.
Bon, après, on est en Europe, il y a une guerre, la crise de l'énergie, l'inflation,
ça
se concentre. Donc, c'est pas anormal qu'ils aient une vision plus pessimiste, encore une fois, à court terme, oui, de la situation en Europe, dans leur propre territoire, par rapport au reste du monde.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle identifie aussi donc les plus grands risques à l'échelle mondiale. Et la France, elle se distingue en mettant les risques cyber, oui, et climat dans le top 4.
Exactement. Exactement.
Alors, pourquoi ?
Alors, risque cyber, je pense que ça s'explique parce que là, encore une fois, on est dans un contexte de guerre en Europe et que donc il y a une recrudescence des cyberattaques. Et on l'a vu récemment, des hôpitaux et autres. Donc, vrai, c'est quelque chose qui a toujours été, en tout cas, il y a une grande sensibilité. Mmh. Et sur le risque climatique.
À quoi, sur le cyber, pardon, à quoi vous l'attribuez cette plus grande sensibilité française à ce qu'on peut voir dans d'autres pays pour vous? Il y a une raison.
Peut-être parce qu'il y a plus d'attaques, peut-être aussi, ouais, parce que les entreprises sont beaucoup plus soucieuses de la protection de leur infrastructure, aussi de la protection des données, d'un certain nombre d'éléments. Et c'est vrai qu'enquête après enquête, on voit que la France est toujours distinguée, oui, avec le risque cyber. Et aujourd'hui, de plus en plus, le risque climatique, oui, qui effectivement est dans le top 3, là où c'est en 5e ou 6e position quand vous regardez le reste du monde.
Bien sûr.
Et donc, il faut s'en réjouir, parce que ça montre, oui, que la France, oui, a quand même une avance, oui, dans ce domaine. Et, mmh, on a souvent tendance à critiquer ou à s'auto-critiquer parce qu'on sait le faire, le fameux brainbashing.
Oui.
Et finalement, c'est plutôt positif.
Il y a un chiffre qui est intéressant, vous interrogez ces patrons, où voudriez-vous vous implanter à l'étranger? Où est-ce qu'un patron étranger pourrait s'implanter ailleurs à l'étranger? Les États-Unis arrivent en tête à 40% pour des raisons qu'on imagine. Est-ce que l'IRA joue véritablement, vous allez me dire? La Chine 23%, l'Allemagne et le UK 18%, la France seulement 7%. C'est étonnant, à l'époque on nous dit la France est devenue the place to be pour les investissements en Europe finalement, alors, de retrouver la France à cette,
oui,
position.
Alors oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est étonnant de trouver la France, je dirais, à cette position-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les dirigeants français, quand on leur demande où est-ce qu'ils veulent investir, ils veulent investir beaucoup moins aux États-Unis. Et ça, c'est assez paradoxal en fait. Oui. Puisque l'année précédente, on était à quasiment 10 points de plus. Ce qui remonte aujourd'hui plutôt, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne dans les préférences d'investissement. Donc on voit que, quelque part, l'Europe est en train de se resserrer, en quelque sorte.
Mais alors, comment est-ce qu'on explique cette mauvaise place donnée à la France ?
Je pense que c'est une question aussi de perception. Je ne sais pas répondre parce que, pour
parce
autant,
que
la France est une des premières destinations d'investissement.
Oui,
donc
voilà.
C'est vrai que c'est assez paradoxal, ce chiffre, alors que...
Ouais. On n'a pas encore balayé toutes les idées reçues sur la France, sa fiscalité, la lourdeur administrative.
Peut-être.
C'est peut-être ça que ça veut dire,
ouais,
finalement.
Peut-être.
Il y a encore du
peut-être
travail de ce point de vue-là.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Et vous parliez des préférences françaises, mais ce que vous dites aussi dans cette étude, c'est où s'implanter à l'étranger pour un patron français. Et pour le coup, les États-Unis arrivent en premier.
Ouais, ils arrivent en premier, mais en fait, ils ont perdu par rapport à la place qu'ils avaient l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, on était à presque 40%, c'est-à-dire on était à 30% d'intention.
Ouais.
Ce qui remonte beaucoup, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et la Chine aussi a baissé.
Ouais. D'être focalisé aussi, il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on en parle sur ce que prévoient ou non les PDG français face à la crise conjoncturelle. Majoritairement, ils vous disent qu'ils ne réduiront pas les effectifs, qu'ils ne réduiront pas les investissements, qu'ils ne réduiront pas les rémunérations. Et ils vous disent majoritairement qu'ils augmenteront leurs prix, qu'ils vont chercher d'autres fournisseurs et qu'ils vont diversifier leur offre. Voilà.
Exactement. Et
ils
ça,
vont
ça,
aller de l'avant.
C'est
voilà.
Positif.
Oui.
Parce
oui,
que
oui.
Justement, on a tendance à être beaucoup dans un pessimisme ambiant. Mais finalement, ces résultats de je ne réduis pas l'investissement, les effectifs, je gèle pas les embauches, c'est la marque de la confiance qu'ils ont et de la nécessité de se transformer. Et on le voit parce qu'on les accompagne beaucoup, oui, dans ces domaines aujourd'hui et on continuera à les accompagner dans l'avenir.
Ouais. Patrice Moreau, peut-être un mot sur Davos puisque nous venons de terminer un débat houleux sur le sujet. Est-ce que Davos sert encore à quelque chose ou non? Donc ce que vous nous dites, c'est que PwC, vous continuez à choisir Davos pour justement présenter cette étude. Donc ça veut dire que c'est quand même un endroit et un événement qui compte encore.
Moi j'aime beaucoup le thème qui est coopérer dans un monde fragmenté.
Qui est le thème de cette année, ouais.
Exactement. Je trouve que des endroits où finalement tous les dirigeants se rencontrent, échangent, et il en sort quelque chose, peut-être pas des choses énormes, mais il en sort quelque chose, c'est quand même très positif. Et on a besoin aujourd'hui de davantage collaborer, coalition. Et voyez, par exemple, aux États-Unis, l'IRA, ouais, je trouve que c'est pas positif à un moment donné où il faut pas qu'on soit isolationniste, mais au contraire qu'on continue à collaborer face aux enjeux absolument énormes que notre monde doit affronter.
Donc à ceux qui disent qu'on va peut-être faire le constat à Davos que le multilatéralisme est en passe d'être une époque révolue, vous dites non, c'est là où il peut y avoir un sursaut, évidemment.
Il faut continuer ces coalitions et à collaborer. Je pense qu'on est plus fort tous ensemble que seul, ouais, chacun séparément.
On est d'accord.
Et ben voilà.
Merci Patrice Moreau.
Merci beaucoup. Voilà pour cette étude. Donc que vous avez publiée il y a de ça 45 minutes à tout casser. Voilà.
Qui a été communiqué il y a 45 minutes absolument.
Merci pour cette exclusivité.
Merci infiniment Patrice Moreau, président de PwC France et Maghreb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business.